RCF.
Lorsque l'on interroge les Français sur leurs priorités dans la vie, la quête du bonheur arrive en bonne position. Des Français qui goûtent au bonheur, si on en croit le sondage Sofres réalisé en 2004 pour le journal Pèlerin, qui révélait que 94% d'entre eux se disaient être heureux. Cette question du bonheur ne date pas d'aujourd'hui, puisque de tout temps, les hommes ont essayé d'en percer les secrets, d'en vivre et surtout de le faire durer. Mais qu'est-ce que le bonheur? Comment devient-on heureux dans un monde qui est loin d'être paradisiaque? Existe-t-il un art de vivre le bonheur? Pour répondre à ces questions, je reçois Christophe André. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, auteur de nombreux ouvrages, dont le célèbre désormais Imparfait, libre et heureux. Vous revenez avec un ouvrage sur le bonheur, De l'art du bonheur, paru aux éditions L'Iconoclaste. Un livre original puisque vous avez choisi de présenter 25 tableaux de peinture à partir desquels vous nous donnez des leçons de bonheur. Alors pourquoi ce recours à l'art ?
En fait, l'idée de ce livre m'est venue un jour où je faisais une séance de thérapie avec une patiente. On n'était pas loin de l'église Saint-Sulpice à Paris. Et on fait, vous savez, les thérapies comportementales comme je les conduis, on amène souvent les patients à l'extérieur. Ceux qui ont peur de prendre le métro, on va avec eux faire des petits exercices dans le métro, etc. Et là, on était en train de voilà, elle était agoraphobe, donc on faisait des exercices de sortie à l'extérieur de l'hôpital. Et il s'est mis à pleuvoir, donc on rentre dans l'église Saint-Sulpice. Et puis, tant qu'on était là, je lui dis, tiens, bon, on va aller voir ce magnifique chef-d'œuvre de Delacroix, qui est la fresque qu'il y a dans la chapelle des Saints Innocents, là, sur le combat de Jacob et l'ange, qui est reproduite dans le livre, d'ailleurs. Et alors, on a bavardé, comme ça, sur cette fresque magnifique, sur ce qu'elle représentait, dans la capacité de lutter contre l'adversité. Et je crois que c'est à ce moment-là, je ne me suis pas dit comme ça, ce jour-là, je vais faire un livre, mais c'est à ce moment-là que le point de départ du livre a pris naissance.
Nous cherchons tous à être heureux.
Oui, oui, oui. Le bonheur, c'est vraiment une aspiration, un besoin sans doute à peu près éternel. Alors évidemment, au fur et à mesure où nous sommes sortis de notre condition animale, ça a évolué. C'est-à-dire, vous savez, tous les animaux, toutes les espèces animales cherchent le bien-être. Lorsqu'on est un animal, on est content d'avoir le ventre plein, d'être au chaud, de se sentir en sécurité. Et lorsqu'on est un humain aussi.
Ça, ce sont les besoins.
Voilà, c'est le bien-être. C'est le bien-être physique, physiologique. Ça, c'est un besoin de tout être vivant parce qu'il faut bien récupérer de la difficulté de la vie, etc. Chez l'être humain, il y a quelque chose d'autre qui se met en marche et c'est ce qu'on appelle le bonheur. C'est-à-dire, le bonheur, c'est un sentiment. C'est pas seulement une espèce d'émotion corporelle, viscérale. C'est une prise de conscience que nous sommes dans un moment de bien-être et que c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. C'est-à-dire qu'au moment où je suis heureux parce que je suis avec des gens que j'aime, parce que je fais quelque chose que j'aime. Il y a une espèce de sortie de moi-même. À la fois, je prends conscience que le moment que je vis est un moment de grâce, un moment qui sort de l'ordinaire, et ça me permet de le savourer davantage. Donc cette notion de prise de conscience d'un instant propice, favorable, agréable, c'est ça qu'on appelle le bonheur.
Dans votre livre, vous évoquez bien sûr l'enfance. On associe d'ailleurs souvent l'idée de l'enfance au paradis perdu, au bonheur passé. L'enfance est un lieu propice pour le bonheur ?
Oui, enfin, en tout cas les enfances normales. Hein. Il y a des enfances, hélas, qui ne permettent pas au bonheur d'être présent, ou pas beaucoup, ou pas souvent. Mais oui, normalement l'enfance est un moment privilégié pour le bonheur, pour une raison simple, c'est que les enfants vivent au présent. En tout cas, lorsqu'ils sont petits, après en grandissant, évidemment, ça change, mais vivent au présent. C'est-à-dire, ils savourent le moment qu'ils sont en train de passer. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont étonnants et déconcertants. Parfois, ils peuvent passer d'un grand chagrin à une demi-heure plus tard de grandes joies et des grands rires. Alors, il ne faut pas conclure qu'ils sont inconsistants, légers, instables. C'est tout simplement qu'ils fonctionnent comme ça. Ils accordent toute leur attention et toute leur énergie au moment présent. Et ça, c'est un des secrets du bonheur. C'est-à-dire être capable, quel que soit l'endroit où je me trouve, d'extraire de cet endroit et de ce moment ce qu'il y a de bon pour moi, sans être en train de me dire « et tout à l'heure, et après, et oui, mais là je vais bien, mais tout à l'heure j'irai moins bien, ou là je suis avec des gens que j'aime, mais ce soir ils vont partir, alors je serai malheureux. » Parfois, cette anticipation nous empêche de profiter de l'instant présent.
Mais cet esprit d'enfance, on peut le garder toute la vie, c'est possible ?
Eh oui, c'est possible. C'est pour ça qu'il y a des différences entre adultes. Il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres pour le bonheur, plus aptes que d'autres, qui y arrivent mieux, à condition de vie égale. Hein. Bien sûr qu'il y a des vies différentes, il y a des vies qui sont faites de beaucoup d'adversité, où c'est plus dur de se sentir heureux, mais on voit très bien que dans les mêmes conditions matérielles et relationnelles de vie, certains arrivent à faire leur miel de leur vie, à se sentir heureux, et d'autres sont toujours dans l'insatisfaction, la plainte ou l'attente que ça soit encore mieux, encore plus facile. Et ça, effectivement, c'est pour certains, ils l'ont pas cherché, quoi. C'est quelque chose qu'ils ont appris sans s'en rendre compte, mais ils l'ont appris quand même. Ils l'ont appris sans s'en rendre compte dans leur enfance, en voyant faire leurs parents, des parents qui étaient eux-mêmes aptes au bonheur, qui ont appris ça à leurs enfants en montrant comment savourer la vie, etc. Et puis d'autres personnes vont devoir l'apprendre elles-mêmes, le construire elles-mêmes, parce que lorsqu'on vient de famille où finalement le bonheur n'était pas la priorité, où c'était plutôt la survie, le travail, le combat, eh bien il va falloir faire ce petit travail psychologique de se dire « attention ». Si je ne prête pas un peu d'énergie, un peu de mon intelligence à cette recherche du bonheur, je vais avoir une vie qui sera peut-être très utile, très active, mais qui ne sera pas forcément une vie heureuse.
À vous écouter, on peut donc éduquer au bonheur. Il y aurait une éducation au bonheur possible.
Oui, je pense sincèrement, et on a pas mal de données qui vont dans ce sens, qu'on peut apprendre, non pas à être heureux tout le temps, vous savez, ça, il faut pas espérer ça, parce que le bonheur, c'est un état psychologique instable, donc c'est comme... c'est comme la journée. Il y a un matin, un midi, un crépuscule, et puis une nuit. Il y a donc le bonheur, il va apparaître et disparaître. Donc, on peut pas espérer être heureux en permanence, ou alors il faut être un surdoué du bonheur, ou un saint, ou avoir des conditions de vie très particulières, un peu à l'écart du monde, etc. Mais on peut espérer l'être plus souvent, plus longtemps, plus pleinement. Et ça peut s'apprendre. On voit très bien qu'il y a des personnes qui ont du mal avec le bonheur et qui font un certain nombre d'erreurs. On parlait tout à l'heure de cette tendance à toujours anticiper. Ça, c'est le problème des anxieux, par exemple, avec le bonheur. Dès qu'ils commencent à être heureux, ils se font du souci pour le moment où ils ne seront plus heureux.
Ah oui, ça va disparaître.
Et oui, et bien évidemment que ça va disparaître. Mais si au moment où ça commence, je suis déjà fixé sur le fait que ça va disparaître, c'est comme, voilà, dès le premier jour de vacances, je suis malheureux parce que je sais que dans 15 jours, 3 semaines, les vacances sont finies. Donc, les anxieux ont beaucoup de mal avec le bonheur. Les déprimés, évidemment, leur maladie dépressive les rend presque inaptes physiquement au bonheur. Et donc, c'est toutes ces petites erreurs qu'on peut faire qui nous bloquent l'accès au bonheur et sur lesquelles, par exemple, on travaille en psychothérapie. Puisqu'en psychothérapie, on s'intéresse indirectement au bonheur. On sait très bien, par exemple, qu'après que quelqu'un ait fait une dépression sévère, il faut qu'on aille un peu fouiner de ce côté-là pour lui éviter de faire trop de rechutes. Quelqu'un qui est capable d'extraire du quotidien le meilleur, de saisir ces petites propositions de bonheur de chaque journée qui existent dans chaque journée, un coin de ciel bleu, une rencontre, une discussion avec un ami, eh bien c'est quelqu'un qui se protégera mieux contre les crises d'angoisse ou les crises dépressives.
Repère RCF.
De l'art du bonheur, c'est le titre de votre livre, Christophe André, paru aux éditions L'Iconoclaste. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? C'est l'amour, c'est l'argent, c'est le succès ?
Tout ça peut nous rendre heureux. Je crois qu'il y a deux catégories quand même de choses qui sont nécessaires pour se sentir heureux. Il y a d'abord pouvoir se permettre d'être heureux, c'est-à-dire s'être affranchi de tout ce qui relève de la survie. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas le ventre plein, tant qu'on ne sait pas où on va dormir, tant qu'on n'est pas sûr qu'on sera toujours vivant ce soir, c'est dur de se préoccuper du bonheur. Et donc il y a des existences qui sont entièrement consacrées à la survie. Et là, le bonheur, évidemment, c'est pas la priorité. La priorité, c'est avoir un minimum matériel pour se permettre de se poser la question du
bonheur. Ça voudrait dire que c'est un luxe, le bonheur ?
D'une certaine façon, oui. En tout cas, force est de constater que pour un certain nombre de personnes hein, sur Terre, c'est pas si facile que ça d'être heureux. Mais d'ailleurs, c'est pas forcément les pays du tiers-monde qui sont où il y a les gens les plus malheureux. Hein. C'est aussi chez nous, les personnes exclues socialement, qui sont sans arrêt confrontées à ce qu'elles n'ont pas et ce que les autres ont. Ce problème de comparaison défavorable aussi est très très mauvais pour son propre bonheur. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes dont les conditions matérielles de vie les condamnent à être sans arrêt en quête, voilà, de survie et non pas de bonheur. Donc, d'une certaine façon, c'est un luxe, mais il faut s'en réjouir parce que c'est très bien pour l'être humain de pouvoir être heureux.
Donc, mais, il faut des conditions de base hein, pour accéder
oui,
au bonheur.
De base, mais il faut se méfier quand on dit que c'est un luxe parce que ces conditions de base n'ont pas à être luxueuses. On voit très bien dans les pays du tiers-monde que dès que les gens, même s'ils vivent dans des conditions qui nous paraissent à nous, occidentaux, très pauvres, dès qu'ils ont de quoi se nourrir et surtout un soutien social autour d'eux, c'est-à-dire des amis, des voisins, des gens avec qui partager des émotions positives, rire, parler, agir, eh bien leur capacité au bonheur et leur intensité de bonheur sont exactement les mêmes que celles d'un riche Parisien, d'un riche New-Yorkais.
Parfois ou... plus, c'est ce qui nous marque dans des voyages en Inde ou en Afrique,
oui,
il y a une joie de vivre dans la simplicité.
Absolument. Et donc, effectivement, dans ces pays-là, dès que les gens ont le minimum matériel, alors ils sont sur la même ligne de départ que les Occidentaux pour se sentir heureux. Parce qu'une fois qu'on a ce minimum requis, vous savez, ça fait longtemps qu'on sait ça, c'est le philosophe grec Épicure qui a donné son nom à l'épicurisme. Hein. Et alors, on croit souvent que l'épicurisme, c'est une philosophie de la jouissance, profiter de la vie, etc. Pas du tout. Épicure, il disait, non, le bonheur, c'est se contenter du minimum, c'est-à-dire avoir de quoi manger, un toit sur la tête, des amis avec qui parler. Une fois qu'on a ça, il faut plus s'occuper du reste. Donc, c'était un bonheur plutôt ascétique. Mais une fois qu'on a ces choses-là, après, le bonheur relève d'aptitudes psychologiques, c'est-à-dire d'une capacité effectivement à saisir les petits bonheurs du quotidien, à les partager avec les autres. Cette notion de lien et de partage est fondamentale dans le bonheur, à se méfier des pressions sociales qui nous poussent à vouloir toujours plus, nous faisant croire qu'en possédant telle voiture, tel genre de maison, en amenant nos enfants dans tel parc d'attractions, on aura plus de bonheur. Donc tout ce travail psychologique reste à faire ensuite.
Alors vous parliez de partage, justement dans votre livre d'art, de l'art du bonheur, il y a une fresque de Giotto connue, on voit saint François d'Assise qui partage son manteau. Le don et le partage, c'est une clé pour accéder au bonheur ?
C'est à la fois une clé et une obligation. C'est une clé parce que effectivement, donner, partager augmente notre bonheur. On peut pas être heureux si on sent. Enfin, on peut évidemment, mais il faut un certain degré d'égoïsme quand même ou d'aveuglement, et c'est forcément inconfortable. C'est difficile d'être heureux si on sent qu'autour de nous il y a trop de gens malheureux. D'un autre côté, il faut bien quand même essayer d'être aussi heureux que possible parce que il y aura toujours quelqu'un de malheureux sur Terre. Donc on ne peut pas s'interdire le bonheur parce qu'il y a des gens malheureux autour de nous. Et ça serait une erreur d'ailleurs parce que, en fait, être moi-même malheureux parce qu'il y a des gens malheureux, d'abord ça ne les rendra pas moins malheureux. Et au contraire, on sait que plus je vais être heureux, plus je vais me sentir bien dans ma peau, plus j'aurai d'énergie pour aider les autres. Donc c'est important d'aider les autres parce que ça va nous rendre un peu plus heureux. Mais je crois que c'est aussi une obligation dans la mesure où le bonheur c'est une richesse. C'est sans doute la plus grande des richesses, elle est bien supérieure aux richesses matérielles. Et que l'obligation qu'on a lorsqu'on est riche, c'est de partager, de redonner, de faire circuler. Et lorsqu'on est heureux, il faut qu'on se sente riche de quelque chose qu'on doit partager. Ça, c'est notre devoir d'être humain, d'essayer de faire circuler ça autour de nous.
Christophe André, dans votre livre « L'art du bonheur », vous parlez de ces petits ennuis qu'on peut rencontrer et qui nous gâchent un peu la vie parfois, mais vous dites qu'il ne faut pas transformer ça en grand malheur. Or, chez certains, une toute petite chose peut les faire sombrer et du coup vivre malheureux. Comment avoir un équilibre ? Comment réussir justement à affronter l'impermanence de la vie ? Un jour ça va, un jour ça va moins bien, et rester quand même dans une unité.
Ça, c'est une des grandes équations du bien-être, effectivement. Comment ne pas transformer la petite adversité en sentiment de malheur et d'injustice? Voilà, la voiture qui démarre pas le matin, un enfant malade, des soucis au travail. Et c'est une tendance irrésistible chez nous. Je crois que chacun de nous a tendance à voir midi à sa porte, comme on dit, c'est-à-dire a tendance à prendre très au sérieux tous les petits problèmes qui nous arrivent. Et bon, c'est... Pourquoi pas, après tout, si ça nous permet de réagir avec plus d'énergie. Mais c'est important de s'imposer régulièrement des cures de recul pour ne pas perdre quand même le sens des proportions, le sens des réalités. Nous, ce qu'on fait par exemple avec nos patients en psychothérapie, on essaie de leur demander d'avoir toujours en tête une sorte d'échelle, d'échelle de malheur de 0 à 10. C'est-à-dire en leur disant, le plus grand des malheurs, ça serait quoi? Que vous coteriez à 10 sur 10. Et évidemment, le plus grand des malheurs, c'est de perdre un enfant, suivi immédiatement après à 9,5 ou 9 sur 10, de perdre un conjoint ou un proche ou quelqu'un qu'on aime beaucoup, etc. Et puis une fois qu'on a calibré l'échelle comme ça, on leur dit, bon voilà, maintenant votre voiture qu'on vient de vous piquer ou qui ne démarre pas, etc., c'est à combien ça par rapport... Vous voyez, on est à 1, 2, 3 sur 10 maximum, donc n'oublions jamais ça, ça c'est le premier point. Et puis inversement, par rapport à ces petites adversités, être capable de se dire, c'est normal. C'est-à-dire, il faudrait presque que tous les matins, en me réveillant, je me dise, bah, aujourd'hui tu vas avoir un ennui. Et ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'imperfection de la vie, donc ne t'énerve pas, te révolte pas, règle-le, ne le prends pas comme une injustice, prends-le comme un problème à résoudre, c'est ta condition humaine, ici-bas, il y a des ennuis. Et inversement, n'oublie jamais une chose, c'est qu'il y a des tas de non-ennuis, il y a des tas de non-adversités, c'est regarde, tu appuies sur le bouton d'électricité et tu as de la lumière ce soir, tu rentres chez toi, ta maison est chauffée, tu ouvres le robinet, il y a de l'eau qui coule, tu prends ton téléphone, tu appelles un ami à 800 km. N'oublie jamais ça, parce que le jour où tu n'auras plus d'électricité, plus d'eau, plus de téléphone, tu râleras, tu te sentiras coupé du monde, isolé, malheureux. Donc, ces petits exercices aussi de se rappeler nos chances, de ne pas oublier, c'est pas parce que tout marche bien, tout est invisible, que c'est pas quand même une chance et des offres de bonheur. Voilà, vous voyez, c'est toute cette sorte d'hygiène psychologique qui peut nous rendre quand même plus conscients que vivre, c'est une chance.
De l'art du bonheur, c'est le titre de votre livre, Christophe André, paru aux éditions L'Iconoclaste. Une succession d'œuvres d'art qui nous révèle quelques clés pour vivre heureux. Parmi ces clés, il y a la gratitude. Alors, vous avez déjà parlé de ça il y a un instant, puisque vous disiez, mais on peut se réjouir de ce qui nous arrive chaque jour, des toutes petites choses. On passe souvent à côté. Donc, vous, c'est repérer le don qui nous est fait au jour le jour?
Oui, c'est repérer tout ce qu'on doit aux autres, parce que souvent on aurait tendance à l'oublier. On vit une époque quand même qui met l'accent en tout cas sur l'individualisme et qui tente souvent de nous faire croire qu'au fond, ce que nous avons, nous ne le devons qu'à nos efforts, etc. Ce qui est en partie vrai. Mais c'est vrai aussi que tout ce que nous avons, nous le devons également à d'autres personnes, aux gens qui nous ont mis au monde, nos parents, à ceux qui nous ont appris des choses, nos enseignants, à ceux qui nous ont soutenus, nos amis, les membres de notre famille, etc. Et ce mouvement de gratitude, c'est quelque chose de fondamental parce que ça n'est pas seulement prendre conscience de ce qu'on doit aux autres, être lucide et ouvrir les yeux sur ça, c'est s'en réjouir. Il y a des gens qui n'aiment pas se sentir en dette vis-à-vis des autres, qui tentent d'effacer la dette en refaisant un don ou en oubliant ou en refoulant, qui ne veulent pas reconnaître leur dette. Et en fait, c'est très étrange comme attitude parce que c'est très réjouissant, moi ça me rend heureux de me sentir en dette vis-à-vis d'autres personnes parce que ça me fait me sentir davantage humain. C'est le bonheur de se sentir un être humain dans une communauté d'êtres humains qui sont bien sûr capables de faire des sales choses, des sales trucs, la guerre, la violence, etc., mais qui sont aussi des êtres exceptionnels, capables de penser à la paix, capables de créer des œuvres d'art, capables de réfléchir, etc. Et donc, ce sentiment de gratitude, il est fondamental. On a montré au cours de tout un tas d'études que, par exemple, s'endormir tous les soirs sur une pensée de gratitude amenait un mieux-être émotionnel assez important. Et gratitude par rapport à des gens proches, évidemment, des gens de ma famille ou des amis qui ont été sympas, qui m'ont aidé, mais aussi par rapport à des inconnus, quelqu'un qui m'a souri, qui m'a tenu la porte, et aussi par rapport à des gens très loin de nous. Lorsque j'écoute un disque de Bach, me dire, bon sang, mais c'est génial, quoi, que Bach ait existé, qu'au lieu de partir à la pêche avec ses enfants, il ait sacrifié quand même de son temps pour écrire ses morceaux, pour les tester. C'est génial qu'il y ait eu des luthiers qui fabriquent des instruments pour transcrire la musique de Bach, qu'il y ait eu des musiciens pour la jouer, des gens pour inventer le CD-ROM, pour me vendre ma platine CD, etc. Donc, ces exercices de gratitude, comme je les appelle, sont un des exemples, effectivement, de ce qu'on peut faire pour peu à peu augmenter son sentiment d'être heureux au sein de cette communauté humaine, ce sentiment d'appartenance.
Mais finalement, c'est un peu ce que fait l'enfant, naturellement. L'émerveillement,
ouais,
le remerciement, on en parlait au début de l'émission, c'est un peu de manière naturelle ce qui sort de la bouche de l'enfant. Ça.
Absolument, ben, en observant les enfants, on peut apprendre beaucoup de choses. Alors il ne faut pas vouloir redevenir un enfant, quoi. Vouloir que l'univers nous émerveille tout le temps. Il faut se dire qu'une fois qu'on est grand, il va falloir faire un peu plus d'efforts que quand on était enfant. Ce sera peut-être moins spontané, mais pourquoi pas? Vous savez, souvent les gens ont l'impression que si on fait des efforts, le résultat est moins bien que si on n'a pas fait d'efforts, et que si par exemple on essaie d'être heureux, ça sera moins bien que les bonheurs qu'on reçoit comme des grâces, qu'on n'a pas cherché, etc. C'est pas vrai du tout, à mon avis. Regardez l'exemple du jardinage. Lorsque vous vous occupez de votre jardin, vous plantez, vous enlevez les mauvaises herbes, vous...
Ça demande de la volonté.
Ben, c'est du temps, c'est des efforts, et après, le résultat est génial. Vous êtes très content et vous dites pas « Ah ouais, mais c'est moins bien que d'être dans la forêt parce que c'est artificiel. » Non, c'est quelque chose qui est... C'est autre chose. Il y a des bonheurs naturels et spontanés, il y a des bonheurs de nature et des bonheurs de culture qu'on a plantés, qu'on a chouchoutés, et les deux nous sont nécessaires.
Faire la paix avec soi-même et pardonner, c'est aussi d'autres clés pour le bonheur. Vous en parlez dans votre livre, à la fin du livre.
Oui, oui, oui. J'en parle d'ailleurs à propos d'un tableau que j'aime beaucoup, qui est le retour du fils prodigue, qui est peint par Rembrandt, qui est un tableau magnifique. Et j'aime beaucoup cette histoire, quoi. Le fils prodigue qui revient. Alors, une sale ambiance dans la maison. Les frères sont un peu jaloux. Il a très peur de se faire agresser, quoi, de se faire couvrir de reproches. Et son père le voit en premier, se jette vers lui et l'embrasse, le prend dans ses bras. Et j'aime beaucoup ce tableau, et donc j'ai écrit à propos de ce tableau toute une réflexion, quoi, sur l'importance du pardon, d'accueillir celui qui est parti au loin, qui a pu nous faire du mal, nous faire souffrir, parfois sans le vouloir. Et plus largement, cette notion de pardon, elle est fondamentale, comme est fondamentale la notion de lutte contre les émotions négatives. C'est-à-dire, effectivement, une chose importante qu'on a à faire pour se sentir heureux, c'est de ne pas laisser trop de place à la tristesse, à la colère, au ressentiment.
Et pourtant, on ressent ces sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ?
Eh bien, on ne peut pas s'empêcher de les ressentir. Quand je dis ne pas laisser trop de place, c'est pas ne pas les ressentir, c'est qu'effectivement, on ne peut pas s'empêcher d'être triste ou d'être en colère ou d'avoir peur. Mais le travail d'hygiène psychologique, c'est de se dire, ok, ça, ces émotions sont là pour attirer mon attention sur quelque chose qui ne va pas. Donc, ce sont des bons starters, des bons signaux d'alarme, des bons serviteurs, mais il ne faut pas qu'elles deviennent mes maîtres. Il ne faut pas que je m'abandonne au ressentiment, que je m'abandonne à la tristesse, à la colère. Donc, le pardon est important à ce niveau-là parce qu'il est une façon aussi de mettre fin à des émotions négatives qui sont de l'ordre du ressentiment, de la colère, de l'envie de vengeance. Et quand on parle du pardon, faut être prudent. D'ailleurs, il faut bien rappeler que pardonner, ça n'est pas oublier ou renoncer à ce qu'il y ait un jugement ou une réparation. C'est simplement se dire, voilà, c'est arrivé, et continuer de repenser à cet événement en étant bouleversé, perturbé par la haine et le ressentiment, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Ça m'empêche juste d'être heureux, que je ne porte plus en moi toutes ces ondes négatives du ressentiment. C'est ça l'idée du pardon. Mais c'est pas de tirer un trait de tout absoudre ou de tout oublier.
À travers votre livre, on sent que la quête du bonheur, c'est une quête, oui, mais en même temps que c'est pas magique et qu'il y a un travail, il y a une volonté, il y a un discernement aussi. Vous parlez du discernement.
Oui, oui, oui. Ben, c'est du boulot. C'est une capacité de recul, effectivement, de discernement. Ben, par exemple, par rapport à ces bonheurs marchands ou ces bonheurs factices qui nous sont sans arrêt mis sous le nez par notre société, qui sont des grandes tentations, évidemment. C'est la facilité. Ce que je dis souvent concernant le bonheur à mes patients, c'est alors, si vous ne vous occupez pas de votre bonheur vous-même, il y en a d'autres qui vont s'en occuper, et ceux qui vont s'en occuper, c'est les gens qui ont des choses à vous vendre. Alors il vaut mieux que vous réfléchissiez par vous-même à ce qui peut vous rendre plus heureux que être exposé à toutes ces pressions publicitaires, marchandes, etc.
On peut quand même acheter votre livre, Christophe André. Ça coûte pas très cher et c'est très beau parce que il y a ces œuvres d'art, ces 25 tableaux d'art à la fois contemporains, classiques et toutes les époques, d'une fresque de Giotto aussi. Ça s'appelle De l'art du bonheur. C'est un ouvrage paru aux éditions L'Iconoclaste. C'est Thomas Jagu qui a mis en onde cette émission.